travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Je ne vais pas vous parler de la neige et de ses conséquences, même s'il y aurait beaucoup de choses à en dire, y compris sur le plan politique, en particulier sur la dégradation des services publics, par exemple. Non, je veux vous parler de ce vent de fronde qui souffle aujourd'hui sur le pays. Ce vent de fronde s'est levé sur la Bretagne. Il est parti de la colère conjuguée des ouvriers licenciés de chez Doux, Tilly-Sabco, de chez GAD, et aussi des petits paysans, des petits routiers révoltés contre l'écotaxe. Aujourd'hui, cette fronde se nourrit de toute une série d'autres colères. Il y a eu la colère des sages-femmes, la colère des auto-entrepreneurs, des camionneurs, des ambulanciers, des centres équestres même, la colère aussi autour des nouveaux rythmes scolaires. Mais ce sont bien les augmentations d'impôts qui cristallisent le ras-le-bol général. Parce que oui, il y a bien un matraquage fiscal, mais il ne concerne pas les plus riches, il concerne toutes les classes populaires. Comme toujours, ce sont les plus riches que l'on entend le plus. Prenez les clubs de foot qui ont osé se plaindre d'avoir à payer 75%, cette taxe de 75%, sur les salaires de plus d'un million d'euros, alors qu'ils sont riches à millions. Le grand patronat, les plus fortunés, se plaignent toujours, pour un oui ou pour un non, mais ils pleurent, la bouche pleine. Et on peut dire qu'ils sont particulièrement ingrats vis-à-vis du gouvernement. Parce que le gouvernement Hollande, héros, n'a pas cessé de leur faire des cadeaux. Comme sous Sarkozy, eh bien, ils ont eu droit aux exonérations et aux aides diverses. Hollande leur a même fait, vous le savez, ce fameux cadeau du crédit d'impôt compétitivité de 20 milliards d'euros par an. Cadeau auquel même Sarkozy n'avait pas pensé. Alors entendre tous ces messieurs protester contre l'impôt, c'est vraiment le monde à l'envers. Le véritable matraquage fiscal, parce qu'il y en a bel et bien un, eh bien, ce sont toutes ces mesures qui ont été décidées en douce et qui font que, d'un seul coup, près d'un million de salariés et de retraités modestes qui ne payaient pas d'impôts sur le revenu sont devenus imposables. C'est cette accumulation de petites réformes qui font qu'un salarié ou un retraité se retrouve à devoir payer 100, 200, 300 euros de plus, alors même que leur revenu n'a pas augmenté. Et combien dans les classes populaires se demandent encore aujourd'hui comment ils vont faire pour payer ces impôts supplémentaires et pour joindre les deux bouts. Alors c'est l'écotaxe qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en Bretagne. Et ce n'est pas surprenant, parce que oui, l'écotaxe est une taxe injuste. Elle n'était pas conçue pour faire payer les gros du transport, de l'agroalimentaire et de la grande distribution sur leurs profits. Ça, non, le gouvernement prétendument socialiste en est incapable. Cette taxe, comme toutes les taxes indirectes, était conçue sans faire de différence entre les petits, entre les gros. Tout le monde devait payer, y compris donc jusqu'aux petits agriculteurs, jusqu'aux petits pêcheurs, qui a parfois du mal à se payer même un SMIC. Et cette taxe, une fois installée, eh bien, elle aurait fini par retomber comme presque toutes les taxes sur nous tous, parce qu'elle se serait, elle aussi, répercutée sur les prix. Alors que la mobilisation en Bretagne ait forcé le gouvernement à suspendre cette nouvelle taxe, c'est une bonne chose. Et l'annonce de sa suppression en serait encore une meilleure. Mais il y a plus important pour les travailleurs. C'est cette fameuse augmentation prévue de la TVA au 1er janvier 2014. La TVA, c'est l'impôt le plus injuste qui soit. D'abord, c'est l'impôt qui rapporte le plus à l'État. Et surtout, c'est un impôt qui frappe indistinctement au même taux les millionnaires, les smicards, les chômeurs et même le SDF. Et pourquoi le gouvernement veut-il augmenter cette TVA? Eh bien, c'est justement, comme il le dit lui-même, pour pouvoir payer le fameux cadeau du crédit compétitivité qui est fait au patronat. Pendant la campagne électorale, Hollande avait promis une révolution fiscale. Eh bien, il n'est capable que de prendre dans la poche des plus pauvres pour donner aux riches. Il n'y a pas de raison de l'accepter. La seule politique fiscale juste du point de vue des exploités, ce serait la suppression de tous ces impôts indirects, la suppression de toutes ces taxes qui vont de la TVA jusqu'à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, en passant par des taxes sur les boissons. Et ce serait aussi la suppression de l'impôt sur le revenu. Plus exactement, que l'impôt sur le revenu ne s'applique pas sur le salaire, qu'il ne s'applique pas sur la pension de retraite et qu'il s'applique au seul véritable revenu, c'est-à-dire à l'argent qui est tiré de l'exploitation par le biais du capital. La seule politique fiscale juste, ce serait de faire payer les capitalistes sur les profits qu'ils tirent de l'exploitation. Le gouvernement nous dit que toutes ces augmentations d'impôts sont nécessaires. Mais nécessaires pourquoi ? Plus les impôts augmentent, plus les services publics utiles aux classes populaires, comme les hôpitaux, l'enseignement, les transports, la sécurité sociale, se dégradent d'année en année, alors que des centaines de millions sont consacrés à financer les industriels de l'armement, ainsi que les guerres de brigandage de l'armée française au Mali ou ailleurs. Alors qu'un des premiers postes de dépenses de l'État, c'est le versement aux banquiers de près de 60 milliards par an au nom de la charge de la dette, dette en grande partie créée par ces mêmes banques qui non seulement ont plongé toute la société dans la crise, mais qui ont aussi été aidées à coups de milliards par l'État. Alors quand on nous dit qu'il faut payer plus d'impôts pour les dépenses publiques utiles à tous, quand on nous dit que c'est faire acte de citoyen, c'est une mauvaise blague. L'impôt est un racket des classes populaires pour entretenir un État, une armée au service de la bourgeoisie, pour entretenir les financiers et autres parasites capitalistes. Et il n'y a pas de raison de laisser se faire les poches. Mais le principal combat pour les travailleurs, c'est le combat contre les licenciements. Là encore, il ne faut pas compter sur le gouvernement, il faut que les travailleurs ne comptent que sur eux-mêmes et sur leur propre lutte. Mais se mobiliser, manifester, mettre un bonnet rouge, vert ou je ne sais de quelle couleur, ne suffira pas. Il faut que les travailleurs se battent, mais se battent pour leurs revendications. Les agriculteurs, les camionneurs, les sages-femmes, les parents d'élèves, tous s'organisent pour faire entendre leur colère. Eh bien, il faut que les travailleurs fassent entendre leurs revendications, leurs intérêts de classe avec autant de vigueur. Bien sûr, il n'y a pas un jour sans que les travailleurs se battent. Récemment, il y a eu les ouvriers de Marine Harvest en Bretagne, les salariés d'Alcatel-Lucent, ceux de la Redoute. Il y a eu les travailleurs de Forgital, dont Romain a parlé, dont personne n'a entendu parler. Donc oui, tous les jours, il y a des travailleurs qui se battent, dos au mur, mais entreprise par entreprise. Et demain, nul doute que d'autres travailleurs se battront contre les licenciements. Mais pour peser politiquement, eh bien, il faut que les travailleurs fassent de toutes ces luttes un seul et même combat contre les licenciements. Et personne ne le fera à leur place. Et sûrement pas le patronat, quand bien même ils se posent en défenseurs de l'emploi. Tous les patrons qui veulent des aides s'abritent derrière la sauvegarde de l'emploi. Mais depuis le début de la crise, les banquiers, comme les grands groupes, ont encaissé les milliards de l'État et ils continuent à licencier. L'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire sont des exigences communes à tous les travailleurs. Comment ne pas se sentir menacé quand le chômage frappe indistinctement les anciens comme les plus jeunes, les travailleurs qualifiés comme ceux qui ne le sont pas, les ouvriers des petites entreprises comme des grandes? Comment ne pas voir que le licenciement est aussi une arme utilisée par le patronat pour faire pression sur les travailleurs et pour aggraver l'exploitation de tous? La fermeture d'une usine est un drame pour les ouvriers qui y travaillent, mais c'est un drame aussi pour les buralistes, les coiffeurs, les restaurateurs, les garagistes de la ville qui voient leur commerce déserté. L'interdiction des licenciements est une mesure de salut public. Ce n'est pas un combat catégoriel. C'est se battre pour la jeunesse, C'est se battre pour que la classe productive ne soit pas poussée vers la déchéance. C'est sauver ce que la société a de plus vital. Les ouvriers et les travailleurs indépendants qui ne vivent que de leur travail ont des intérêts communs et ils peuvent se retrouver dans bien des combats. Mais ils doivent récuser l'idée qu'ils ont quelque intérêt de commun avec le grand patronat. Et tout le discours que l'on nous sert autour de la Bretagne et de sa particularité est nuisible à double titre. D'abord parce que cela laisse entendre qu'entre exploités et exploiteurs bretons, il y a des intérêts communs. Et ensuite, parce que cela coupe les travailleurs, les ouvriers bretons qui veulent se battre des autres travailleurs du pays, alors qu'ils ont à mener ensemble le combat contre les licenciements. Et les drapeaux bretons ne sont pas là que pour le folklore. Ils participent, eux aussi, à la tromperie. Eh bien, il ne faut pas que les travailleurs tombent dans le piège. Les travailleurs ont mille fois raison de manifester leur colère contre la politique anti-ouvrière du gouvernement. Mais ils doivent le faire sur la base de leurs revendications et contre le grand patronat exploiteur. Il faut que les travailleurs affirment leur volonté de se défendre contre les licenciements, contre la démolition de leur pouvoir d'achat et contre l'aggravation aussi de l'exploitation et contre tous ces cadeaux qui sont faits au patronat et qui démolissent la sécurité sociale, les retraites, les services publics et qui se traduisent pour nous tous en impôts nouveaux. Il faut que les travailleurs lèvent leur propre drapeau, le drapeau des exploités. Depuis plusieurs années, nous disons qu'il faut populariser autour de nous, dans la classe ouvrière, un programme de lutte pour les travailleurs. Eh bien, on en mesure aujourd'hui toute l'urgence. Pour que les travailleurs mobilisés ne se laissent pas entraîner dans de faux combats, pour qu'ils ne se mettent pas à la remorque d'intérêts patronaux, il faut relayer dès aujourd'hui les revendications des travailleurs. Il faut en discuter autour de nous, les populariser. La priorité et l'urgence pour les travailleurs, c'est la fin des licenciements. C'est l'interdiction des licenciements et le partage du travail entre tous sans diminution de salaire, de façon à résorber le chômage. Pour ceux qui ont un salaire et un emploi à temps complet, la vie devient de plus en plus difficile. Pour les travailleurs, c'est pire encore. Parmi ceux qui ont été licenciés ces dernières années, combien ont épuisé leurs droits au chômage et sont tombés dans les minima sociaux qui permettent tout juste de survivre? Combien sont menacés de perdre leur logement après avoir perdu leur emploi? Empêcher que l'on tombe au chômage, c'est une question de survie. Au nom de la protection de la vie humaine, il est interdit aux propriétaires d'expulser leurs locataires pendant l'hiver. C'est la fameuse trêve hivernale. Eh bien, il faut se battre aussi pour qu'au nom de la protection de la vie, il soit interdit de licencier. Cela stopperait l'augmentation du chômage, mettrait un coup d'arrêt à la flambée du chômage. Mais il y a encore 5 millions de femmes et d'hommes qui sont sans travail. Alors pour résorber le chômage, eh bien il faudrait aussi qu'il y ait des embauches. Des embauches partout où le personnel manque, partout où la cadence de travail et les horaires sont devenus insoutenables, partout où les salariés ne peuvent plus poser leurs congés. Il faut des embauches en CDI, de vrais emplois, avec des salaires pleins et entiers. Et il faut arrêter avec tous ces contrats précaires scandaleux où tous les 2 ans, un travailleur en remplace un autre, mis au chômage. Oui, il faut arrêter de concentrer tout le travail sur des salariés de moins en moins nombreux, mais au contraire, imposer de le répartir avec un salaire plein et entier, parce qu'un emploi et son salaire qui va avec est la seule richesse des travailleurs. Le revendiquer, c'est un droit légitime. Les patrons font de leur profit la priorité. Eh bien, les travailleurs doivent faire de la lutte pour leur emploi et pour leur salaire leur priorité. Les grands groupes ont de quoi payer les salaires des travailleurs. Et à défaut, Eh bien, qu'ils puisent dans les fortunes accumulées des grands actionnaires. Et les difficultés éventuelles, y compris celles des plus petites entreprises, doivent être palliées par les plus riches, par les plus fortunés, par les banques, celles-là même que l'État a aidées pour traverser la crise. Mais les travailleurs, eux, n'ont pas à servir d'amortisseurs. Et pour que chacun vive dignement aujourd'hui, il faut relever le SMIC à 1 700 € net, net. Et il faut obtenir qu'il augmente. Au même rythme que les loyers, le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances, et ce, pour tous les salaires, mais aussi pour les pensions de retraite et pour les minima sociaux. Si aujourd'hui, il y a des salariés qui demandent à travailler le dimanche ou la nuit, ce n'est pas parce que ça les amuse, c'est parce qu'ils touchent justement des salaires de misère. Le travail du dimanche, comme les heures supplémentaires, n'ont rien à voir avec du volontariat. C'est, pour les travailleurs sous-payés, une situation imposée et forcée. Alors la question du travail du dimanche, comme la question des heures supplémentaires, masque le seul vrai problème, celui des salaires. Et les travailleurs ne pourront pas le résoudre avec des arrangements individuels. La seule solution, c'est encore une fois le combat collectif pour l'augmentation de tous les salaires et leur indexation automatique sur l'inflation. Ce sont des revendications élémentaires. À travers ces objectifs, les travailleurs ne font que revendiquer leur droit à la vie. Mais c'est trop pour la bourgeoisie. Vous connaissez son discours ? Il n'y a plus d'argent, augmenter les salaires, embaucher est impossible. Il y a des problèmes de compétitivité. C'est pourquoi ces deux premiers objectifs sont liés à un troisième, celui de contrôler les comptes et les décisions des entreprises. On ne peut pas et on ne doit pas croire sur parole les dirigeants de la bourgeoisie. Les mêmes qui expliquent qu'ils ne peuvent plus payer leurs cotisations pour la sécurité sociale versent 200, 300 fois le SMIC à leur PDG. Les mêmes qui refusent d'augmenter les salaires au rythme de l'inflation trouvent normal de verser des dizaines de millions aux grands actionnaires. Millions qui sont ensuite dilapidés dans des caprices de riches, ou pire encore, dans la spéculation. Le grand patronat a érigé le mensonge en art de gouverner. Prenez la famille Doux, qui sévit actuellement en Bretagne et qui a licencié sur les deux dernières années des milliers de travailleurs en invoquant de grosses difficultés financières et la concurrence internationale. Eh bien, elle n'a rien perdu de sa fortune. Elle continue de faire des belles affaires aux quatre coins du monde et la concurrence internationale, elle contribue à l'organiser. Prenez la Redoute aussi, que tout le monde présente comme une entreprise très mal en point. Mais son propriétaire, c'est Pinault, une des plus grandes fortunes du pays. Et lui, il va très bien. Rien qu'en 2012, ce monsieur a vu sa fortune s'accroître de 4 milliards. Eh bien, c'est plus qu'il n'en faut pour garantir jusqu'à leur retraite les salaires des 700 employés qu'il menace aujourd'hui de licencier à Roubaix. Alors, il serait tout simplement normal que les travailleurs concernés par des licenciements ou confrontés à des attaques aient accès à la comptabilité, qu'ils puissent connaître l'état réel des entreprises, ses bénéfices réels, ses dettes, ses participations aussi à d'autres entreprises, l'utilisation des dividendes. De la même façon, l'indexation des salaires sur les prix, l'échelle mobile des salaires, ne serait possible qu'en contrôlant réellement l'évolution des prix et qu'en la vérifiant par nous-mêmes. Parce que faire confiance au taux d'inflation qui est calculé officiellement par l'INSEE, ce serait encore se faire voler. Parce que tous ces indices sont mensongers et ils ne reflètent pas la réelle hausse de prix que nous subissons. Pour contrôler l'augmentation des prix, il n'y aurait pas besoin de créer un énième comité de suivi ou de contrôle. Nous pensons que ce contrôle est à la portée de la population elle-même. C'est à la portée des mères et des pères de famille qui font leurs courses quotidiennement. C'est à la portée aussi des employés d'hypermarchés à qui on demande chaque jour de changer les étiquettes des prix des produits. Quant aux agriculteurs, ils savent très bien organiser des expéditions dans ces supermarchés de la grande distribution pour dénoncer la différence entre les prix auxquels ils vendent et les prix que le consommateur trouve à l'étalage. Combien de fois ont-ils dénoncé les marges des intermédiaires et le vol du fruit de leur travail par la grande distribution? Alors oui, les travailleurs, les paysans, les caissières, les comptables ont mille et une façons de dévoiler ce qui se passe derrière les vitres opaques des conseils d'administration. C'est bien sûr dans une période de montée des luttes et collectivement que les travailleurs pourraient imposer ce contrôle, car ils reprendraient confiance en eux et ils pourraient prendre l'habitude de tout dire, de tout mettre sur la place publique. Et on pourrait alors tout savoir sur la comptabilité, sur les prix, sur les magouilles des bourgeois, petits et grands. On pourrait tout savoir de ces fameuses charges dont tous les patrons nous disent qu'elles pèsent trop lourdement. Mais combien versent-ils aux banquiers? Combien payent-ils pour louer leurs locaux aux spéculateurs immobiliers? Combien payent-ils aux assurances? Quelle marge le petit patron laisse aux gros donneurs d'ordre? Et dans cette transparence générale, eh bien on verrait aussi combien rapporte un salarié. Et on mesurerait alors toute l'escroquerie qu'il y a à parler de coût du travail. Parce que le coût du travail, ça n'existe pas. Le travail ne coûte pas aux patrons, il leur rapporte. Le moindre centime que la bourgeoisie gagne lui vient de l'exploitation du travail. Les millions d'euros que dépensent les riches pour s'assurer leur train de vie de parasites est extrait de la peine et de la sueur des travailleurs. Alors voilà tout ce que pourrait dévoiler le contrôle des travailleurs. Le secret commercial, le secret bancaire et le secret des affaires font partie des armes du patronat pour imposer leur domination. Eh bien, la levée de ce secret doit faire partie du programme des travailleurs. Pour défendre leurs conditions d'existence, les travailleurs doivent se battre pour leurs intérêts, pour le programme que je viens de décrire, l'interdiction des licenciements, l'échelle mobile des salaires et le contrôle sur les comptes de la bourgeoisie. C'est en combattant les capitalistes de la distribution, de l'industrie et de la finance que les travailleurs pourront entraîner derrière eux les autres catégories sociales qui vivent de leur travail sans exploiter personne. Mais ce sont bien les ouvriers, les exploités, qui doivent prendre la tête de ce combat, parce qu'ils sont les seuls à n'avoir aucun intérêt à cette société d'exploitation, les seuls à pouvoir contester la dictature de la bourgeoisie et de ce système capitaliste qui ruine toutes les classes populaires et qui pèse sur la société. Et encore une fois, les travailleurs ne pourront le faire que s'ils ont leur propre programme, leur propre politique indépendante, leur propre parti et une profonde conscience de leurs intérêts de classe. Les responsables de la bourgeoisie et leurs larbins nous répètent du matin au soir leurs propres solutions. Tantôt, ils nous parlent d'innovation. Ensuite, c'est le remboursement de la dette ou le protectionnisme ou la sortie de l'euro. Eh bien, les travailleurs doivent opposer à toutes ces politiques qui répondent aux problèmes de la bourgeoisie leurs propres politiques, leurs programmes qui répondent à leurs problèmes. Revenir à ce programme de lutte, le populariser contre tous les mensonges de la bourgeoisie et affirmer que la classe ouvrière doit le brandir en toute indépendance doit être pour nous une boussole. C'est aussi la meilleure manière pour ne pas tomber dans un autre piège, dans le piège de la propagande de la compétitivité. Le patronat et la droite, son allié naturel, ont toujours cherché à faire croire que l'avenir de l'économie dépendait de la compétitivité des entreprises. Ils ont toujours défendu l'idée que l'augmentation de cette compétitivité devait être le seul, l'unique objectif de toutes les politiques publiques. Depuis qu'ils sont au pouvoir, les socialistes y sont convertis, eux aussi. Et même, certains syndicalistes s'y sont mis. Mais pour les travailleurs, la compétitivité, c'est le grand retour en arrière. C'est l'exploitation, c'est le travail à la tâche, ce sont les salaires de misère. Aujourd'hui, en 2013, celui qui revendique un emploi en CDI, la retraite pleine et entière à 60 ans, avec 37,5 annuités de cotisation, celui qui revendique un salaire digne de ce nom est au pire un dangereux extrémiste, au mieux un utopique. C'est-à-dire que ce qui existait il n'y a de cela que 20 ans est devenu aujourd'hui une folie utopique. Eh bien voilà le résultat de cette fameuse course à la compétitivité. La compétitivité et le capitalisme sont les raisons d'être des capitalistes, pas des travailleurs. La bourgeoisie veut impliquer les travailleurs, les ouvriers, dans sa guerre économique avec ses concurrents. Mais les travailleurs n'ont aucune raison de marcher, comme ils n'ont aucune raison d'être attachés à cette économie stupide, aucune raison d'accepter de se sacrifier pour une économie qui est basée sur leur propre exploitation et basée sur leur propre appauvrissement. Faut-il accepter que nos vies dépendent des commandes que son patron saura arracher au détriment d'autres travailleurs ? Faut-il accepter que notre salaire dépende des bonnes affaires que notre patron fera ? Non, les travailleurs n'ont pas à se laisser prendre au piège de cette propagande. Ils doivent revendiquer leur dû, sans se soucier des conséquences sur la compétitivité ou sur les profits, sans se soucier de gêner les affaires de la bourgeoisie. La seule perspective pour la classe ouvrière, c'est de se battre pour ses intérêts propres, pour sa survie, quoi qu'il en coûte au patronat. Et si la bourgeoisie et ses serviteurs politiques ne sont pas capables d'assurer le minimum vital aux travailleurs, eh bien qu'ils laissent la place. Si ce système capitaliste n'est pas en mesure de garantir aux exploités leurs droits élémentaires à avoir un emploi et à en vivre, eh bien il faut le renverser. Les travailleurs ne pourront se défendre efficacement que s'ils ont conscience qu'ils doivent combattre et le grand patronat et le gouvernement. Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement. Beaucoup, à droite comme à gauche, critiquent la politique du gouvernement en accusant Hollande, en l'accusant d'indécision, de manque d'autorité. Je ne sais pas si vous avez vu, mais même les psychologues se sont penchés sur son cas, expliquant que ses nombreux changements de pied seraient dus à son enfance, passé à faire le grand écart entre une mère de gauche et un père de droite. Eh bien, il est ridicule d'allonger Hollande sur le divan du psychanalyste pour comprendre sa politique. Elle est celle de tout président de la République. Elle vise à préserver le système capitaliste et la classe qui en profite, la bourgeoisie. Si Hollande donne l'impression de changer de discours en permanence et de ne pas savoir où il va, c'est qu'à la différence de la droite, il ne veut pas l'assumer. Les socialistes au pouvoir sont dans le double discours parce qu'ils sont coincés entre les attentes de leur électorat d'un côté et les attentes de la bourgeoisie, dont ils sont les gestionnaires fidèles et auprès de qui ils se sont engagés. Mais ils savent très bien où ils vont. Ils ont un cap. Ils font la politique que le patronat leur demande. Pour ArcelorMittal, Hollande a défendu Mittal. Il n'a pas reculé malgré la pression en faveur de la nationalisation du site de Florange. Face à la fermeture de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois, il a défendu la famille Peugeot. Il n'a pas reculé face aux ouvriers qui se sont battus pendant 4 mois contre la fermeture de l'usine. Hollande a reculé sur les impôts pour les plus riches, pas sur ceux payés par les plus modestes. Eh bien ça, c'est un cap politique, c'est une politique de classe. Hollande gouverne pour servir les intérêts des capitalistes. Il a été formé, sélectionné pour cela. On nous dit que nous sommes en démocratie et que la population choisit ses dirigeants au travers des élections. Mais une série de filtres présélectionne le personnel politique en fonction de son dévouement au système. Pour être à la tête des grandes villes, des départements, des régions et au gouvernement, il faut avoir montré patte blanche vis-à-vis des financiers et vis-à-vis des capitalistes. Il faut avoir fait la preuve de sa loyauté. Et de ce point de vue, il n'y a pas de différence entre Hollande et Sarkozy. Cela a amené Hollande à faire une politique anti-ouvrière. Cela l'a amené à faire ce fameux cadeau du crédit d'impôt compétitivité. Et cela l'a amené à mettre en place la loi sur la flexibilité, à attaquer les retraites et à augmenter les impôts jusqu'à cette TVA qui pèsera encore plus sur les plus modestes. Et il n'y a pas à s'en étonner. Oui, Le gouvernement mène une politique anti-ouvrière et il est payé pour cela. Le gouvernement mène la même politique que la droite. Les travailleurs doivent le combattre comme si c'était un gouvernement de droite. Les travailleurs réagiront tôt ou tard face à toutes ces attaques. Mais pour que leur combat ait une chance d'être mené jusqu'au bout, eh bien, il faut faire revivre cette conscience de classe et les idées communistes révolutionnaires que le mouvement ouvrier a apportées pendant bien des années. Depuis que la classe ouvrière existe, les travailleurs se sont toujours battus pour leurs conditions d'existence. Mais c'est à l'honneur du mouvement ouvrier conscient que d'avoir défendu aussi des idées bien plus générales, celles de la critique radicale de la société capitaliste, de son caractère injuste, incontrôlable, anachronique. La perspective tracée par le mouvement ouvrier révolutionnaire ne se bornait pas à la défense des exploités, mais à leur émancipation et à l'émancipation de toute la société du joug de l'argent. C'était la perspective de détruire la société capitaliste et de la remplacer par une société sans exploitation, sans la dictature des profits. Le mouvement ouvrier a levé non seulement le drapeau de la défense des exploités, mais aussi le drapeau de la société communiste. La transmission de ces idées et de ces valeurs propres à la classe ouvrière et au mouvement ouvrier s'est affaiblie au fur et à mesure des trahisons des partis ouvriers. Des trahisons d'abord du Parti socialiste, puis du Parti communiste. Deux partis qui ont fini par s'intégrer dans la société bourgeoise et qui se sont transformés en gestionnaires loyaux des affaires de la bourgeoisie. À cela s'ajoute la politique tout aussi démobilisatrice des centrales syndicales. Je parle des directions nationales des syndicats. Dans le meilleur des cas, elles font mine de s'opposer, organisent des baroudes d'honneur, mais sans réellement armer les travailleurs moralement, sans leur donner de perspective. Aujourd'hui, alors qu'on voit beaucoup d'autres catégories sociales se battre, manifester, protester, que propose-t-il aux travailleurs, aux ouvriers? Et au pire, ces confédérations syndicales justifient ou appuient les attaques du gouvernement et du patronat en allant jusqu'à contresigner des mesures qui sont anti-ouvrières. Alors voilà comment tous ceux qui prétendent être du côté des travailleurs ont distillé au sein de la classe ouvrière les valeurs et les idées de la bourgeoisie. Au point qu'aujourd'hui, beaucoup de travailleurs, rebaptisés classe moyenne, reprennent les idées de la bourgeoisie, qu'on nous répète au travers de la presse, de la télé, que l'économie doit être compétitive, qu'en fin de compte, il faut bien qu'il y ait des riches, et puis que l'intérêt des exploités, c'est que les exploiteurs s'enrichissent. Au point aussi que les idées nationalistes et protectionnistes étrangères au mouvement ouvrier sont présentées comme des évidences. Aujourd'hui, il est beaucoup question de la remontée des idées racistes dans la société. Comme à chaque crise, ce sont les pires préjugés qui remontent à la surface. Mais ils s'expriment d'autant plus que la caste politique chevauche ces préjugés pour des raisons électoralistes. C'est bien sûr l'extrême droite qui en fait son fond de commerce. Mais la droite lui court derrière. Et quand Valls déclare droit dans ses bottes que les Roms ne peuvent pas s'intégrer, il fouille, lui aussi, dans les poubelles du Front National. Parce que faire croire que 17 000 Roms est un problème insoluble pour un pays de 65 millions d'habitants, c'est vraiment abject. Et puisque l'immigration est revenue au centre du débat, eh bien, je voudrais en dire deux mots. Ici, je voudrais d'abord dire que la vie de beaucoup de travailleurs est celle de perpétuels nomades. Ici, en France, il s'agit le plus souvent de faire quelques dizaines de kilomètres pour changer de ville et pour changer d'usine, pour trouver du travail. Mais les travailleurs des pays pauvres sont, eux, forcés de faire des milliers de kilomètres, de changer de continent, de langue et d'abandonner leurs attaches. Aujourd'hui, il paraît que de plus en plus de jeunes Français diplômés tentent une carrière à l'étranger, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, à Singapour. Personne ne leur conteste ce droit. Eh bien, il n'y a aucune raison d'en priver les autres travailleurs. Quelle que soit sa nationalité, son origine ou ses papiers, tout travailleur doit être libre de circuler et de s'installer où il le souhaite. Les travailleurs n'ont pas de patrie. Les travailleurs n'ont pas de patrie, disait Marx. Tant il est vrai que le sort que le capitalisme réserve aux prolétaires, c'est d'aller là où il y a du travail. Tant il est vrai que rien ne sera jamais donné aux exploités, jamais assuré, et pas même ce droit de se faire exploiter dans le pays où ils sont nés. C'est pourquoi le mouvement ouvrier conscient s'est toujours battu contre ceux qui voulaient opposer les travailleurs les uns aux autres, en fonction de leur nationalité ou de leur origine. Eh bien, cette solidarité de classe et l'internationalisme doivent constituer, encore aujourd'hui, les valeurs de la classe ouvrière. Le fait d'être les seuls à défendre les idées et les perspectives propres à la classe ouvrière rend notre activité et notre politique d'autant plus précieuses et indispensables. Oui, il faut reconstruire un parti qui oppose à tous les partis dévoués au système capitaliste une politique propre aux travailleurs, une politique qui ait pour objectif de préserver les intérêts de ceux qui travaillent, une politique de classe qui oppose la classe ouvrière à son ennemi social, la classe capitaliste qui vit de l'exploitation. Il faut continuer à faire entendre cette voix comme nous le faisons dans nos activités quotidiennes. Et pour que les travailleurs ne soient pas réduits à devoir choisir aux élections municipales et européennes entre des candidats qui se placent tous dans le cadre de l'organisation capitaliste de l'économie et sur le terrain de la bourgeoisie, et pour que les travailleurs puissent faire entendre leur camp contre la bourgeoisie et les serviteurs politiques, et ces serviteurs politiques, eh bien nous essaierons d'être le plus présents possible dans ces deux élections. Dans ces deux élections, nous ferons entendre la voix de ce courant du mouvement ouvrier qui considère que les travailleurs n'ont pas à choisir entre tous ceux qui ont pour perspective de perpétuer l'esclavage salarial, mais qu'il faut que dans ces élections, comme dans la vie politique, les exploités défendent leurs intérêts pour l'immédiat comme pour l'avenir de la société. Les municipales constituent la première possibilité électorale de rejeter la politique de Hollande et du Parti socialiste. Ces élections sont locales, mais la signification qu'on donnera au vote aura un caractère national. Et c'est dans l'ordre des choses, parce que les problèmes qui se posent à la population en général et aux exploités en particulier ne sont pas des problèmes locaux ou municipaux. Eh bien, il faut que les travailleurs dans ces deux élections puissent rejeter la politique du gouvernement, d'un point de vue de classe, du point de vue des intérêts des travailleurs. Il suffit de discuter autour de nous pour savoir que dans les milieux populaires, certains envisagent de voter pour le Front National pour exprimer leur rejet du gouvernement. Mais croire qu'il est possible de rejeter la politique anti-ouvrière de ce gouvernement et le cirque politicien en votant pour le Front National, c'est se tirer une balle dans le pied. Le Front National, s'il parvenait au pouvoir, gouvernerait au profit de la bourgeoisie, comme les Sarkozy, les Hollande, comme ce fameux UMPS que le Front National dénonce, mais il le ferait, lui, dans une variante encore plus autoritaire. Et le simple fait que le Front National jette en pâture les travailleurs immigrés, une partie de la classe ouvrière, une partie de notre camp, une partie de nous-mêmes, fait de ce parti un ennemi mortel pour les travailleurs. Certains se disent que voter pour le Front National donnera un coup de pied dans la fourmilière. Mais si le vote Front National pèsera, peut-être demain, il pèsera dans le sens contraire aux intérêts des travailleurs. Parce que le vote Front National sera interprété comme une critique du gouvernement sur sa droite. Parce que les votes venant des plus pauvres, venant des travailleurs, se mélangeront avec ceux des pires réactionnaires, avec tous ces petits patrons anti-ouvriers qui rêvent de faire disparaître le SMIC, le RSA, les syndicats. Leurs votes se mélangeront avec les nostalgiques des colonies, de l'OAS, avec les racistes. Voter Front National sera interprété comme l'exigence d'une politique plus dure contre les chômeurs, une politique dure contre les syndicats, plus dure contre les travailleurs qui veulent s'organiser et se défendre. Pour un travailleur, voter Front National, c'est tendre le fouet pour se faire battre. Bien sûr, il faut rejeter la politique du gouvernement. Mais il faut rejeter sa politique anti-ouvrière, en mettant en avant les intérêts des travailleurs. Et en plus d'exprimer une colère consciente contre le gouvernement, il faut que les travailleurs affirment leur volonté de se défendre contre le grand patronat. Parce qu'il ne suffit pas d'exprimer sa colère contre les marionnettes. Il faut viser aussi ceux qui tirent les ficelles, la bourgeoisie, les financiers, les actionnaires. Il faut viser les licencieurs, les exploiteurs, les parasites qui s'engraissent sur le travail de tous. Pour faire reculer ce patronat et le gouvernement, il n'y aura pas de miracle. Il faudra des luttes massives de la classe ouvrière. Mais quand l'occasion nous est donnée de nous exprimer dans les élections, et ce sera le cas dans les prochaines municipales et européennes, il faut que les travailleurs l'utilisent pour exprimer une colère consciente contre la bourgeoisie et contre ses serviteurs politiques, toutes obédiences confondues, du Parti socialiste jusqu'au Front National, en passant par la droite et par le centre. Il s'agit de reprendre le combat mené par des générations de militants pour doter la classe ouvrière d'une conscience de classe, pour l'armer politiquement. Au regard de cette perspective immense, se présenter aux élections municipales ou européennes peut paraître un objectif bien mince. Mais c'est aussi beaucoup, parce que c'est à travers tous ces combats politiques, y compris à travers les combats électoraux, que peut émerger et se forger un parti politique qui représente les intérêts des travailleurs, un véritable parti communiste. Alors, je fais appel à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui voudraient apporter leur pierre, que ce soit à l'occasion des prochaines élections ou au travers de nos différentes activités. Il y a de la place pour tous. Le mouvement ouvrier s'est développé à travers la collaboration de centaines, de milliers de femmes et d'hommes qui ont apporté leur contribution. Eh bien, chacun, aujourd'hui, peut aider à sa façon et nous avons besoin de tous.